je commençais à réaliser dans le fond que j'allais peut-être plus être jamais autant en santé que dans le passé si je changeais pas quelque chose. Puis là, c'est devenu compliqué parce que je savais pas quoi changer. Il fallait rouler quand même 60 heures semaine. Là. J'avais pas le temps de penser à rien, puis changer mes habitudes, puis bon, tu sais, tout ce qu'il faudrait faire. Les mois sont accumulés, puis à l'automne, je me suis assise une journée dans un cours que je donnais. J'avais plus envie de le donner. C'était tellement étrange, je pouvais pas tenir debout. J'avais pas de voix, j'avais plus de mémoire, je savais pas quoi dire aux étudiants, j'avais oublié. J'ai dit à ma technicienne de laboratoire, qui était une perle, j'ai dit, aujourd'hui, je leur enseignerai rien de nouveau. Je suis pas sûre que je vais revenir. Je suis pas revenue. J'ai pas décidé ce que je vais faire pour la suite. J'ai jamais voulu être un super-héros, mais j'ai fait un métier qu'on dit, hein, souvent, on dit, ah, c'est des super-héros, les ambulanciers. Mais on est juste humains, Moses. J'ai pas appris à être un humain encore, je pense.
Bienvenue au 7e épisode de La Quarantaine, une série balado de 40 conversations avec des personnes de 40 à 49 ans qui se racontent. On prend le temps de se parler pour mieux se comprendre. Mon nom est Brigitte Gem, j'adore faire parler les autres et ce projet, c'est ma manière de donner du sens à ce milieu de vie où on continue de grandir et où on peut encore se redéfinir. Mon invitée d'aujourd'hui, Emmanuelle Bourdon, est enseignante en soins préhospitaliers d'urgence. Autrement dit, elle forme les futurs paramédics. Mais pour le moment, elle est en arrêt de travail et en train de découvrir comment prendre soin d'elle-même après 3 décennies à prendre soin des autres. On parle ensemble de sa naissance aux îles de la Madeleine et de son enfance en banlieue de Montréal, là où elle trouvait pas ça facile de se faire des amis. On parle de sa passion pour le développement des connaissances et surtout, Emmanuelle raconte les défis associés à sa décision de devenir ambulancière, surtout pour une jeune femme, alors qu'il n'y avait pas de parcours scolaire évident à l'époque pour elle. On parle aussi de ce que vieillir peut signifier quand notre force physique et mentale sont un pilier de notre identité. Merci de partager ce moment avec nous. Bonjour, Emmanuelle Bourdon.
Bonjour, Brigitte.
Quel plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir que tu aies accepté de participer à cette série d'échanges sur la quarantaine. Et qui sommes-nous? Où allons-nous? C'est des grandes questions qu'on se pose tous. Puis je suis vraiment très, très excitée que tu aies accepté de partager tes réflexions avec moi sur ce sujet-là. On se connaît depuis assez longtemps, mais on s'est perdu de vue pas mal au cours des dernières années, fait que ça va être une bonne opportunité de se rebrancher. Et pour commencer, j'aimerais te poser une question toute simple sur ton quotidien. Parle-moi de ta vie de tous les jours en quelques mots, si on faisait un documentaire sur toi, mais qu'on faisait juste te suivre, là, caméra à l'épaule, dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on verrait?
On verrait. Ben, je te dis tout de suite que je partage ton excitation. Là. Je suis très heureuse que, en fait, tu aies eu l'idée de faire un projet comme celui-là. Puis, ça avait un beau lien avec justement ma petite vie au quotidien en ce moment. C'est un peu une nouvelle vie que j'ai en ce moment. Je suis déménagée il y a un an, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Je suis pas une Montréalaise, moi. Je viens de la Rive-Sud. Puis là, je suis encore en train de découvrir bien que j'ai vécu dans Rosemont auparavant, je découvre ce que c'est d'être entourée de gens. Ça grouille beaucoup. Mais étonnamment, en ce moment, je sors pas tellement. Je suis quelqu'un qui travaille dans un collège. Je suis enseignante au collège Jeune-Cycle. Mais en arrêt de travail présentement, je te dirais que c'est un mélange de la COVID. Il y a un effet de la quarantaine aussi. C'est une des raisons, je te dirais, là, de mon arrêt de travail. Mais je suis à un bon moment. Ça fait 8 mois déjà. Je suis à la maison. Puis je suis dans un processus là, de me trouver justement un air d'aller dans le quotidien. Un nouvel air d'aller. Mais en général, ce à quoi je pense, c'est à retourner au travail à un certain moment. Puis mon travail, c'est d'enseigner comme paramédic ou ambulancier, ambulancière. Là, c'est le mot paramédic qui est un petit peu moins utilisé là, du côté francophone. Mais j'ai un poste là, donc depuis 17 ans déjà. Et j'enseigne auprès de jeunes qui qui veulent faire ce métier, qui rêvent de faire de ce métier. Autrement, je suis en couple, ce qui est aussi nouveau. J'ai été plusieurs années célibataire, fait que, il y a quelque chose là, avec quelqu'un aussi qui démarre sa quarantaine. Puis, on est très heureux de s'être rencontrés. Il y aura quelque chose à compter là-dessus tantôt. Puis, sinon, je suis une grande sœur et j'ai un petit grand frère et une petite grande sœur, donc plus jeune que moi, mais plus grand en taille. puis, en fait, je suis très proche de ma sœur, malgré que ma sœur est en Gaspésie. Fait que j'essaie toujours aussi dans le quotidien là, de prendre des nouvelles de mes neveux, nièces, ma sœur. C'est des gens qui sont malgré tout près de moi dans le quotidien, mais certainement pas physiquement. Fait que ça, c'est une autre belle chose. Puis, probablement qu'il y aura d'autres surprises là, au travers de notre discussion, là, mais j'ai un quotidien donc à la maison, en réflexion, en train de me ressourcer le corps, l'esprit. C'est, en fait, c'est un beau moment. Un beau moment, par exemple, de ma vie, malgré le sérieux de tout ça. Puis, au début, c'était pas si drôle.
Les circonstances qui ont amener ce moment de pause-là sont peut-être pas les plus désirables, mais on dirait qu'un coup que tu t'y es trouvé, c'est peut-être c'est fort probablement une bonne chose.
Oui, je suis absolument d'accord où on est. Je pouvais pas dire ça initialement. Ça a pris quand même... Je me rendais pas compte que ça pouvait être un arrêt, okay, qui allait aider, peu importe ce que je vivais là, au moment où je le vivais. Mais j'avais besoin physiquement de repos, mentalement, puis un agit sur l'autre, nécessairement. En tout cas, pour moi, c'est sûr que c'est indissociable, là, le corps, l'esprit, un influence l'autre. Et au début, je n'avais pas les capacités de réaliser qu'il fallait même que je m'arrête. Ça a été long. Puis là, c'est 8 mois après, si je referai le calcul, là, mais... 8 mois après, j'ai dormi pendant 2 mois. Puis tranquillement, avec, je te dirais, la fin de l'hiver, j'ai commencé un peu à émerger comme la plante au printemps. Puis là, bon, ben, les racines sont un peu plus solides, mais il faut aller tirer de l'eau dans le sol puis des nutriments.
Je t'imaginais pour un moment comme une marmotte sortant de son trou au printemps.
Mais c'est l'autre chose, ça, c'est bon aussi. Oui, ça aurait pu être ça. Mais il y a eu une hibernation, certainement. Il a fallu que je mette sur pause le cerveau. Aussi, les idées, les pensées, il fallait qu'elles arrêtent. Oui, ce qui a mené à ça, en temps et lieu, c'est ça dans la rencontre, c'est sûr que moi, je vais t'en parler, mais ça m'a tellement été un moment crucial pour la suite. Puis c'est sûr que la COVID a joué son œuvre là-dedans. C'est pas quelque chose... je pensais qu'il allait m'affecter autant que ça. Parce que c'est moi, j'ai pas vécu la maladie. J'ai pas eu de gens autour de moi qui l'ont eu dans les moments où c'était l'inconnu pour tout le monde. Mais finalement, il y a eu un impact dans le quotidien. Puis aujourd'hui, je peux un peu plus le peser ou le sous-peser, l'impact.
Puis, on est à un moment unique. On va ça, tout va bien aller.
Ouais, ce fameux arc-en-ciel. Ouais.
On en reparlera du fameux arc-en-ciel. Emmanuel, j'aimerais t'inviter à reculer de 40 quelques années et peut-être même davantage. Ça dépend de toi. J'aimerais que tu me parles de qui tu es, de tes racines. Et de ce que tu considères être ton identité aujourd'hui?
C'est tellement intéressant. Parce que quand j'y repense, c'est vraiment le fameux casse-tête là, de notre vie là, qu'on refait, mais je te dirais que je ne suis pas un casse-tête traditionnel. Le casse-tête, on a une forme là, qui revient tout le temps, là, la petite boucle qui se coince dans justement là, l'espace. Mais mon casse-tête à moi, non, c'est pas une boucle régulière. Ça va être d'autres types de formes qui s'imbriquent. Puis, dès le début, il y a quelque chose qui a été... c'est mes parents qui ont créé ça. Puis, ça l'a comme annoncé ma trajectoire un peu particulière de vie. Puis, ben, en fait, moi, j'ai été conçue aux îles de la Madeleine. Mes parents, mes jeunes parents à ce moment-là, ma mère était 25 ans, mon père était un petit peu plus vieux, dans début trentaine. C'est mon père qui a eu un contrat comme ingénieur, très jeune, son premier emploi là, officiel, pour Hydro-Québec, aux îles de la Madeleine. Il y avait une ligne là-bas, il y a une éolienne qui n'a jamais été mise en opération là, officiellement, mais il faisait des tests. Puis, il a accepté un poste sur ce projet-là, puis ma mère l'a suivi. Donc, ils sont partis de Ville-la-Salle, la Chine, de Montréal, et ils sont allés, dans le fond, pratiquement immigrer aux îles de la Madeleine. Donc, j'ai été conçue là-bas, puis je suis née là, un 25 décembre. Notre fameux lien du mois de décembre, à moi et à toi, hein, on est collés, fait qu'il y a des choses que tu comprendras qui ont influencé un peu notre vie. Mais certainement, ma mère, ça l'a marqué, ma naissance le 25 décembre. J'étais attendue pour le 1er janvier. Fait que ça, c'était la... ouais. En partant, ça n'a pas... c'était particulier. Puis bon, j'ai atterri le 25 décembre. Une histoire qui revient toujours dans ma famille, c'est comment l'accouchement de ma mère a été difficile. Et que je pense qu'il y a quelque chose là qui a quand même influencé qui je suis, puis peut-être même physiquement, physiologiquement, il y a quelque chose qui s'est passé là. Mais bon, je suis née après 36 heures de travail acharné de ma mère, ce qui n'était pas commun, ouais. Aux Îles-la-Madeleine, en 1976, il n'y a pas encore d'échographie disponible. Que c'est un autre univers, puis on ne peut pas prévoir que je vais avoir, dans le fond, comme bien des bébés, le cordon ombilical, là, quelques tours autour du cou. Fait que, bon, ça a entraîné des difficultés à l'accouchement, mais ils sont passés au travers avec la méthode sans imagerie médicale. Mais tout ça, c'est comme devenu une légende un peu. Donc, je suis le bébé de Noël qui ne voulait pas vraiment arriver, mais qui est arrivé. Bon, puis finalement... la légende s'est poursuivie parce que j'ai été jusqu'à 6 mois aux Îles-de-la-Madeleine. Mais après, on est revenu à Saint-Bruno de Montarville, sur la rive sud de Montréal. Puis, je suis devenue une banlieusarde, mais qui était née sur une île lointaine. Puis, qui aimait le... En vieillissant, là, ça s'est resté... J'aime bien le homard, OK? Fait que Emmanuel, elle aime le homard. J'aime l'animal, puis j'aime, malheureusement, pour certains, moi, j'aime bien manger du homard. Mais pourquoi? La seule chose que je vois, puis là, c'est un peu... on en rit bien, là, parce que je ne peux pas dire que je crois à ces choses-là ou qu'il y a des théories très solides à laquelle j'adhère, mais ma mère mangeait du homard enceinte. C'est vraiment quelque chose qu'elle a apprécié. Puis je suis sûre qu'il y a un lien. J'aime la mer, j'aime l'eau salée. C'était ma première piscine. Ça m'a influencée jusqu'à aujourd'hui. C'est un petit quelque chose. Bon, tout le monde aime la mer, tout le monde, en quelque part, aime la plage, je dirais, mais pour moi, il y a quelque chose de viscéral. Autrement, bon, j'ai grandi à Saint-Bruno, une petite ville de banlieue. Quelque chose de très tranquille, là. Puis, ce qui a été marquant dans ma vie, je dirais, quand j'étais jeune, c'était difficile pour moi d'être en groupe. Fait que, il y a toujours eu quelque chose, puis ça a toujours été très... quand je pense à mon enfance, là, c'était difficile. Mes parents m'aimaient, je veux dire, j'étais entourée, mais il y a quelque chose là qui a été difficile. Autrement, il y a plein de choses qui étaient faciles. Je m'entendais bien avec les adultes, j'ai parlé rapidement, j'ai parlé beaucoup rapidement. Ça, c'est une chose que... Et moi, finalement, aujourd'hui. Ah oui, on en connaît quelque chose, toi et moi. C'est resté. Et puis là, ben, ce qui me reste de mon enfance, c'est toute la petite école, l'école secondaire où on s'est connus, toi et moi. J'aimais ça. J'aimais apprendre, j'aimais l'école, j'étais une curieuse. J'aimais aussi bouger, ce qui était quand même... j'étais une fille costaude dès mon jeune âge. Des bonnes épaules, puis c'était un beau mélange pour moi, mais c'était difficile d'avoir des amitiés. Fait que je réussissais bien à l'école, j'aimais le sport, mais tout ce qui était en groupe, je pense que ça, c'était difficile. Mais je voulais, j'ai toujours voulu avoir des gens autour de moi, des amis. Ça n'a pas été simple. Puis, entre le primaire et le secondaire, il y a une grosse différence pour moi, c'est qu'effectivement, je me suis retrouvée dans une école, dans des groupes de douance tout le temps. Fait qu'à l'école, c'était facile. Mais c'était difficile autrement, ailleurs, dans d'autres choses. Puis, je te dirais, bon, c'est ça, fin du primaire, bon, la puberté arrive, il y a beaucoup de changements. J'ai commencé à m'entraîner en natation de compétition. Ça a été salutaire. Puis, ça m'a donné mes épaules d'aujourd'hui. Là, on se parle, toi et moi. Les gens ne peuvent pas voir, mais j'ai gardé des épaules costaudes. Puis, je les aime. Je les aime, mes épaules.
Okay? Tu as des beaux muscles.
Oui, voilà. Et c'est des muscles que j'ai, dans le fond, développés assez jeune. Et puis, je les ai entretenus. Aujourd'hui, là, j'aimerais bien les reprendre, l'entraînement, mais on verra. On verra qu'est-ce qui sera possible. Mais mon corps était... Donc, j'avais un corps bien développé, tu sais, pas d'enjeu. Puis la puberté, ça l'entraînait de l'asthme. Et en même temps que j'ai commencé à nager, j'ai aussi commencé un asthme. Puis aujourd'hui, on sait que c'est relié probablement même aux estrogènes. C'est toute une histoire, là. Mais c'est un moment, donc, où un peu de maladie, mais en même temps, beaucoup de capacités. Je réussis bien, je suis intéressée par toutes sortes de matières. Puis là, il y a eu un choix de mes parents. Mes parents étaient très... mes parents assez autoritaires. Hein. Ça, c'est un trait dans ma vie. Ils m'ont inculqué des valeurs de respect de la vie que je réalise aujourd'hui à être pas extrême, mais pas loin. Je vais défendre la cause de certains en m'oubliant moi-même. OK? Ça vient d'eux. Ça, c'est clair. Et en même temps, ils étaient autoritaires, ils voulaient qu'on réussisse à l'école, ils étaient tristes que j'ai des difficultés avec les amitiés. Bien que j'avais une ou deux très bonnes amies, la vie de groupe, c'était dur. Puis on a eu l'occasion à ce moment-là que j'ai à l'école, dans une école qui n'était pas une polyvalente régulière, école d'éducation internationale. Ben moi, ça l'a vraiment, vraiment, ça m'a permis d'être bien, de ne pas être dans une école régulière. C'est là qu'on s'est rencontrés. Mais indépendamment de ça, je me suis mis finalement à être entourée de gens qui étaient probablement comme moi, pour certains, d'autres type de gens, mais qui étaient dans l'action, dans les études. Il n'y avait plus une des difficultés que j'ai eu au primaire, le petit groupe de garçons qui venaient m'intimider. C'était terminé, ça. Les filles aussi, ce n'était pas les gangs de filles qui se tirent les cheveux. Ça l'a vraiment permis de me centrer puis de me sentir en sécurité sans que je sache que ça avait cet effet-là sur moi. Mais aujourd'hui, je vois que la petite enfance, l'enfance, c'était... Je ne me sentais pas toujours en sécurité. L'école secondaire, ça a beaucoup contribué. Puis là, j'ai développé plein de talents que je n'avais peut-être pas autant développé. Autrement, c'est un bout de vie. Là, je suis partie pour... C'est quand même un bout de vie qui est un peu flou pour moi. Puis quand je parle avec des gens de ma classe, là, du temps, comme toi ou d'autres, j'ai de la misère à me souvenir de certains bouts. Et je pense que c'était quand même une époque où il y a beaucoup de choses qui se passaient sans que j'aie le contrôle. Ça défilait devant moi. Mais au moins, je me sentais bien. Fait que ça, c'est une chose. La fin du secondaire, ça l'a amené, par exemple, des grands changements. Moi, j'ai pas eu de petits copains pendant le secondaire, vraiment. En tout cas, vers la fin, oui, mais ça a été des histoires compliquées. Puis c'était toujours à côté, c'était l'autorité parentale, l'influence que mes parents avaient sur moi. je m'affirmais pas beaucoup, bien que j'avais confiance en moi. Puis, ça m'a amenée vers une période beaucoup plus trouble, celle du cégep.
Le cégep, c'est une belle institution pour se mêler et se démêler.
Ah oui. Ben moi, je me suis mêlée, Brigitte. Mais mêlée, il y avait quelque chose, par exemple, qui s'annonçait. Puis je te dis, hein, ma naissance était particulière, mais en même temps, je veux dire, j'ai grandi dans un, comme je te dis, dans un contexte assez régulier. Puis bon, mais arrivé au cégep, c'est que ça faisait déjà quelques années, 2 ans à peu près, je me disais que j'allais devenir ambulancière. Et c'est quelque chose qui m'a... C'est une idée qui m'est passée par la tête dans un... J'aimais, comme je t'ai dit, l'action, le corps, utiliser mon corps, mais j'aimais aussi, j'étais une curieuse, j'aimais le corps humain, j'étais intéressée par l'aide aux autres. Et puis même, j'avais un pré-projet, là. Avant d'être ambulancière, je voulais être sexologue. Puis ça m'était sorti vers 12 ans, là. Parce que je trouvais que les gens ne savaient pas assez sur leur corps. Puis tout le monde se posait plein de questions sur la puberté. Puis moi, mes parents m'avaient donné des livres là-dessus. Alors, très autoritaire. Je n'avais pas de chum, mais je connaissais tout ce qu'il y avait à connaître sur la sexualité à 12 ans. T'sais, par les livres.
Tu étais bien informée.
Oui. Mais ça m'a animée. Si je m'étais dit, ah, je pourrais être sexologue. Puis je ne sais pas pourquoi, mais je savais que ça existait. Comme formation, titre, peu importe, mais j'avais cette conscience-là. Après ça, le monde autour de moi, il y en a plein qui me reprenaient dans les adultes. Ah, tu veux dire psychologue? Non, je veux pas dire psychologue. Okay. Ça passait pas toujours. Mon père, c'était, mais non, tu veux être psychologue. Ma mère, elle avait l'idée que ça existait. Elle m'a toujours, comment dire, sans me décourager, elle a toujours accepté le terme. OK? Il est arrivé que j'ai fait un cours de sauvetage, je suis devenue sauveteur, puis c'est la personne qui donnait ce cours-là, qui est une personne avec qui je travaille aujourd'hui, je le dis comme ça, là. Ouais, la personne qui donnait mon cours a parlé d'ambulance, puis moi, à 15-16 ans, j'avais jamais vraiment entendu le mot ambulance. Mais ça va affecter toute ma vie après, dans le bon et dans le plus dur, mais certainement dans le très bon. Fait que j'ai été curieuse, puis à l'adolescence, on cherche, je pense, à se dépasser, on cherche des émotions fortes malgré tout. Peu importe. Puis il a piqué ma curiosité. Puis il y a quelques jours, je parlais avec ma directrice au collège, parce que je suis dans des démarches quand même de retour au travail. Puis on se parlait, puis elle m'a demandé qu'est-ce qui m'avait amenée à être ambulancière. T'sais. Ben Moses, c'est à ce moment-là, à 16 ans, quelqu'un m'a dit, je posais la question, qu'est-ce que c'est ambulancier? Où on peut être formé là-dessus? La personne m'a répondu, ben, laisse faire ça.
Ouais. C'est peut-être mieux pas.
Voilà. Mais je ne l'ai pas perçu, ça. Moi, c'était plus, ben voyons, tu me lances un défi.
Est-ce que c'était un ambulancier?
C'était un ambulancier. Ça, c'était la chose que, dans le fond, il n'en parlait pas trop dans notre cours. Tu vois que c'est quelqu'un qui était très réservé, ce qui n'est pas toujours vrai dans le domaine. Hein, les gens en uniforme, des fois, aiment ça, flamboyant, s'annoncer. Lui, il était très réservé. Ça m'a encore plus attiré vers ce métier-là. Parce que mes parents, justement, qui étaient des gens très engagés, qui voulaient qu'on soit des personnes, des bons citoyens, hein, ils appréciaient cette forme-là d'humilité. Ben, Moses, j'ai tout
la
fait.
La droiture.
Pour... Oui. Puis, probablement beaucoup l'influence judéo-chrétienne, catholique. Moi, je suis allée à la messe jusqu'à 16 ans, tous les dimanches, toutes les... Ça, c'était particulier parce que c'est pas tout le monde à nos âges là, qui ont eu ça. Tout ce qu'il y avait comme, je vous dirais, tu sais... Autant le mercredi des cendres, les journées du pardon et autres, ça faisait partie de mon quotidien. Mais c'est tout ça à cet âge-là, 16 ans, ça c'est une chose, un peu une parenthèse dans les parenthèses. Là. C'est moi qui ai décidé d'arrêter d'aller à la messe. Puis fait cocasse, c'est parce que le prêtre a refait la même homilie 2 fois dans l'année. Ouais.
Tu as demandé un remboursement. Moi, j'aurais fait ça aussi.
C'est ça. C'est à peu près ça. J'ai dit à mon père, c'est parce qu'il l'a dit ça l'année, il y a quelques mois, l'année passée. Là, mon père qui a aussi beaucoup de mémoire, puis qui n'est pas, je te dirais aujourd'hui, là, il s'en va sur 80 ans, là, dans l'année qui viendra. Il était plus impressionné, là. Il est plus impressionné autant qu'il l'a été. Mais cette journée-là, c'est la seule fois où il ne m'a pas corrigée. Il n'a pas essayé de me convaincre. Puis, il ne m'a plus jamais, finalement, demandé de venir à la messe. Mais tu sais, en même temps, c'est tellement, je dirais, c'est naïf, là. Mais c'était la capacité, je démontrais, tu sais, la capacité d'écoute, la mémoire, la présence. Je pense que ça, mon père a apprécié. Puis, mais j'ai eu une éducation quand même, judéo-chrétienne, puis le don de soi, c'est important, hein, puis bon. Fait que j'ai quitté le système parce que je trouvais que, ben le système, j'ai quitté cette religion-là, hein, en termes de pratique ou même de croyance, là. Mais à 16 ans, c'est correct, on se cherche, on se trouve. Bon, puis aujourd'hui, je suis satisfaite. Je suis d'accord avec ce que j'ai fait. Ça, c'était un moment charnière. Puis c'était en parallèle de ma décision aussi de peut-être de vouloir devenir ambulancière. J'avais aussi l'idée de sexologue. Puis, tu sais, je te parle de tout ça. Chaque fois maintenant, quand je parle de mon passé, je me rends compte que j'étais axée sur travailler. J'avais pas, moi, de... À ce moment-là, je parlais pas d'avoir un chum, une famille, une maison. C'était pas ça. Puis c'était pas non plus l'école qui m'influençait. C'était vraiment des choses que je voulais faire. Et qu'il y avait une motivation forte, là. Ça venait de... C'était viscéral.
Est-ce que tu dirais que c'était cette idée-là de vouloir, tu l'as mentionné, là, comme contribuer ou le don de soi? Parce que le travail, ça peut être aussi le désir de devenir adulte, peut-être un peu plus vite, tu sais, de devenir plus indépendant, mais j'entends
c'était,
aussi... L'autre...
Oui, c'est beaucoup plus le premier des deux. Donc, le don de soi, l'engagement, ça... Bon, encore aujourd'hui, c'est difficile parce que j'aimerais ça pouvoir dire qu'est-ce que ça me fait vraiment? Tu vois, au terme de ce que je vis en ce moment, là, d'être en réflexion, en repos, puis de me dire si c'est le travail que je veux continuer de faire, parce que c'est enseigner, c'est le don de soi. Enseigner un métier de la santé, il faut que tu enseignes le don de soi en partie, mais il faut que tu enseignes la santé aussi. je ne savais pas qu'il fallait mettre une limite à donner de soi. Puis, ça restait là-dessus. Hein? Les motivations, c'était là. Faire de l'argent, pas vraiment, parce que ça, je peux dire, c'est une chose que je n'ai pas fait dans ma vie. J'en ai un peu, je vis bien, définitivement, j'ai un bon salaire comme enseignante, mais j'ai jamais pensé à l'argent, puis à un moment donné, c'est important. Non, c'était vraiment le fait de peut-être pouvoir côtoyer. Il y a des gens qui nous demandent, quand on va dans les profession santé, où ça m'est arrivé récemment, je faisais une petite entrevue là, comme pour faire de l'intervention d'urgence, mais dans un autre domaine, dans le domaine psychosocial. On m'a demandé si j'étais une victime, si j'avais vécu des choses difficiles, c'est pour ça que je voulais redonner aux autres. Mais pas vraiment. Oui, j'ai eu des moments difficiles comme jeune enfant au primaire, mais je me sentais pas que je voulais sauver le monde. Je voulais juste être en train de faire quelque chose d'utile, là, maintenant, puis ça bouge. Puis pour te faire une histoire courte, pourquoi j'ai voulu être ambulancière plus que sexologue rendu là, parce que c'est là-dessus que j'ai mis mes énergies après, bien, c'est parce que c'était dehors. C'était pas en dedans. Ouais.
Ma mère, tu travailles de bureau.
Bien, c'est ça. Puis pourtant, je suis un rat de bibliothèque, là. Non, c'est ça. C'est les deux, hein, dehors ou la bibliothèque. Le bord de mer aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais ça m'a vraiment, ça me perturbe combien ces choses-là ont teinté tout ce qui a suivi après. C'est des idées qui étaient solides à 12, 13, 15 ans. Il y a une personne, oui, qui m'a influencée, mais elle ne voulait pas m'influencer. Tu sais, des fois, tu as un mentor là, qui te montre la voie, mais non, lui, il m'a fermé la porte. Mais finalement, aujourd'hui, je travaille avec lui comme enseignante. Il est aussi enseignant dans mon département. Puis je lui rappelle à intervalles réguliers. Hein? Ça leur met toujours... Enfin, il voit sa vie défiler devant ses yeux chaque fois. Lui, ça ne sera pas juste le jour de sa mort. J'ai organisé ça. Mais pour vrai, c'est une personne là, qui a été influente. Puis je suis très heureuse parce que c'était pour les valeurs en lesquelles des valeurs en lesquelles je crois encore. Puis quand il nous avait dit... quand il a dit « laisse faire ça », c'était que le milieu n'était pas facile. Le travail n'est pas facile. Là. Les gens qui entendent ambulancier disent tout le temps « mais voyons, tu as dû en voir des choses. » Oui, mais pas celles qu'on pense. Rendu là, je comprends mieux pourquoi il m'a dit ça, parce que je l'ai vécu. Mais certainement, je ne comprenais pas tout ça au début. Puis, un grand fait marquant pour moi dans la vie, c'est quand j'ai voulu devenir ambulancière, le cours ne se donnait pas au Québec. Non. Puis, c'est vraiment bizarre tout ça. Tu sais, nous, on est du milieu scolaire, on est en douance. J'ai été encouragée à aller à l'université dans ma vie. Mais dans le temps, en 94, secondaire 5, il existait un programme, oui, qui s'appelait Technique ambulancière, et c'était une AEC au niveau collégial. Puis ça durait 800 heures, plus ou moins. Puis ça venait de changer, parce qu'avant, c'était 350 heures. Quelques années
après. Conduire des ambulances, en gros.
C'était ça. Puis c'était ça depuis le début 80, des années 80. Tu sais, puis là, je ne commencerai pas parce que ça va nous prendre une autre belle heure ensemble. Mais pour vrai, j'en ai fait mon sujet de maîtrise, là, un petit peu. Qu'est-ce que le métier, dans le fond, d'ambulancier au Québec? Puis d'où on vient? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il n'y a rien qui existait là-dessus. C'est ça que j'ai découvert à l'arrivée au cégep. Moi, je voulais faire ça, mais ça ne s'offrait pas au cégep comme tel. C'était dans une AEC que tu pouvais atteindre si tu étais chômeur. Tu devais avoir plus de 18 ans et être sur le chômage. Et là, j'ai commencé à un peu saisir ce que ça voulait dire, laisse faire ça. Instructeur en sauvetage, là. Lui, où il avait été formé, c'était en Ontario. Parce qu'en Ontario, ils ont un programme qui roulait normalement, de type, ce qui est l'équivalent pour nous là, d'un DEC. Là. Puis, finalement, je me suis inscrite en Ontario, en parallèle de m'inscrire au cégep. Fait que j'ai complété un DEC, moi, en sciences humaines, profil individu, avec un petit dérapage en sciences de la santé au début, bien sûr, comme plusieurs de gens qui veulent aller en santé. J'ai pas réussi les maths, la chimie, la physique. Puis aujourd'hui, j'ai appris que j'ai probablement un trouble d'apprentissage. La douance, ça n'empêche pas ça. Ça m'a surpris. Mais avoir su, j'aurais peut-être fait ça autrement. Fait qu'il y a eu toutes sortes de choses au cégep. Mais c'est vraiment mon désir de devenir ambulancière qui a un peu tout fait bifurquer. Fait que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour entrer à l'université en sexo. Mais en parallèle, je me suis beaucoup impliquée en sauvetage, comme sauveteur. J'ai fait du secourisme avec la Croix-Rouge. Puis j'avais deux vies. Donc la vie au cégep, celle-là n'était pas toujours facile. Puis j'avais ma vie de bénévole et ou de sauveteur sur le bord des piscines. Puis je voulais absolument réussir à faire le cours. Fait que je me suis inscrite en Ontario, 12 000 $ que ça coûtait à ce moment-là. J'avais 0 $, mais je m'étais inscrite. Puis il y a eu tout un concours de circonstances. C'est là que ça a été marquant dans ma vie. C'est que je me suis retrouvée à aller cogner à la porte d'un employeur, un service ambulancier. Puis j'ai découvert un autre univers. Mon père était un ingénieur à Hydro-Québec. C'était un métier très stable. C'était un chercheur à Hydro-Québec. C'était du lundi au vendredi. Bien qu'il faisait quelques voyages autour de la planète parce qu'il était un expert dans son domaine. Et puis, ma mère, elle a terminé ses études en soins infirmiers en même temps que j'ai fini le secondaire. En 94. Mais ça, c'est un bel exemple. Ma mère avait 42 ans à ce moment-là. Fait que j'ai eu le modèle de ma maman, 42 ans, qui retourne sur le marché du travail comme infirmière. Mais j'avais pas d'autre modèle que de la formation régulière. Là, je suis tombée intéressée par un métier. T'as pas de cours d'ouvert au Québec. Je m'inscris en Ontario. Bon, il y a un concours de circonstances qui a fait que je suis pas allée en Ontario parce que j'ai fait du bénévolat au Collège Unicycle, où je travaille aujourd'hui. Ça, c'est il y a 20 ans et plus, là, 25 ans. J'ai fouillé, j'ai réussi à connaître des gens. Par le service ambulancier, j'ai su qu'ils prenaient des gens pour faire les victimes des examens. Le service ambulancier, je leur ai offert mes services bénévoles parce qu'ils avaient inventé une équipe vélo qui faisait du secourisme l'été. J'avais l'expérience avec la Croix-Rouge. Puis Moses, j'avais pas de l'air bien plus vieille que j'en ai l'air aujourd'hui. Personne, on se voit pas. Puis là, j'ai presque pas de rides. J'ai des joues roses, des petits cheveux frisés. Je trouve que j'ai vieilli, mais très peu. Le visage se ressemble. Puis, mon Dieu, j'avais l'air jeune. J'avais une tête. J'avais, le sens des responsabilités. Mais j'avais l'air jeune. Et un concours de circonstances a fait que j'ai fini par aller faire des victimes là-bas. Puis Moses, mon formateur de sauvetage, était rendu enseignant dans ce programme-là qui venait de réouvrir. C'est ça qui est arrivé. Fait qu'autour de 94, c'était fermé, mais quelques mois plus tard, c'était ouvert. Fait que j'ai fini mon cégep dans ces temps-là. J'ai connu les gens, puis arrivé, bon, 96, 97, je commence à aller faire des victimes là-bas. Je mets de côté d'aller en Ontario parce que j'apprends qu'il y a un cours dans lequel je vais peut-être pouvoir m'inscrire. Et là, Brigitte, je t'ai dit que je suis la Madeleine, un jour de Noël, mais c'était un peu étrange tout ça. Ben, Moses, moi, je suis rentrée sur un cours, un AEC collégial, et puis là, c'était plus les chômeurs, c'était le Fonds de lutte contre la pauvreté. Et puis, je vous le dis ici au micro, j'ai menti pour réussir à rentrer sur le cours. Ouais, c'est ça.
C'est le temps des confessions.
Et voilà, parce qu'après toutes ces années, il faut l'avouer. J'ai dit que j'habitais à Montréal, fait que je suis allée me faire un permis de conduire avec une adresse à Montréal. J'ai donné l'adresse d'une connaissance, et puis j'ai donné mon revenu, qui était un revenu étudiant. J'habitais chez mes parents, mais mes parents habitaient à Saint-Bruno. Et puis, je faisais un revenu de pauvre, si je peux m'exprimer d'une façon très... très peu respectueuse, et puis c'est pas comme ça que je pense. Mais c'est ce qui a fait que je suis entrée sur le cours.
Et puis, ils t'ont cru?
Ils m'ont cru. Et ça a été un peu fou, mais sur ce cours-là, on était 24. On a fini peut-être 12. On était trois femmes, trois Québécoises qui n'avaient pas dit toute la vérité. Il y avait trois, quatre Québécois, et le reste était des médecins immigrants qui ne pouvaient pas pratiquer. Et là, j'ai découvert un autre univers. Parce que moi, je venais d'un milieu sans être aisé. C'était un milieu, on appelle ça la classe moyenne.
Confortable.
Oui, confortable. Je pouvais pas... mes parents avaient des restrictions pour certaines choses, mais j'ai souffert d'aucune carence. nourriture, autre, présence de mes parents. Mais là, je me retrouve avec des hommes. La plupart étaient nord-africains, avec des vécus. Certains venaient de l'Algérie, étaient même réfugiés, sans être immigrés, étaient réfugiés. Il y avait beaucoup de violence là-bas. Les médecins étaient pris en otage pour soigner. Donc, les gens qui étaient dans les guerres,
les combattants,
là-bas, là, pour le pouvoir, oui. Puis, c'était leur famille qui était menacée si le médecin refusait. Ces gens-là sont dans mon groupe. Puis là, c'est totalement un surnaturel. Mais moi, à ce moment-là, donc, je me coupe de la société, de la communauté, du monde. Mon rêve se réalise, mais je suis dans un univers parallèle. Personne ne sait c'est quoi un ambulancier. Personne ne sait qu'il y a un AEC collégial. Je suis sur un fond lutte contre la pauvreté, enfin, c'est un fonds de lutte contre la pauvreté spécial que le gouvernement avait mis sur pied, qui finance mon cours. Et puis là, je quitte la maison à ce moment-là. Et là, mon univers rangé de petits rats de bibliothèque, de nageuses, de filles bénévoles, c'est fini. C'est tout un autre univers qui s'ouvre. Puis c'est à temps plein, ça dure un an, hein, 800 heures. Là, nous, ça l'a augmenté un peu à ce moment-là. Puis ça va être étrange. C'est sûr que je suis une première de classe. Physiquement, je me surpasse comme femme à ce moment-là, mais je ne le sais pas. Parce que les exigences sont encore... on a un test physique, hein, pour rentrer sur le cours. Je l'ai fait deux fois. Le premier coup, je l'ai échoué. Mais je ne l'ai pas échoué parce que je n'étais pas forte. C'est parce que je n'avais pas forcé. Je n'avais pas appris à bouger de cette façon-là. Bon. On devait lever une charge de 138 livres. Ça m'a marqué.
Wow!
Oui. Une chaise avec un poids pour simuler le poids d'un humain. Il faut la tirer dans des marches seule. On ne fait jamais ça. Là, on est deux. Il y avait un modèle. Puis là, je découvre en fait que c'est un modèle particulièrement masculin. Pour ne pas dire macho. Mais je ne le sais pas. Parce que je n'ai pas été éduquée dans un contexte où, comment dire, on faisait la différence entre un homme et une femme. Pour ce qui est, mon père nous a traités égal, homme, femme. Ma mère était plutôt féministe, mais ça, je sais ça aujourd'hui. Je ne savais pas ce que c'était à ce moment-là. Moi, je suis arrivée, j'avais envie de forcer. Mais Moses, une des choses qui m'a définie à ce moment-là, c'est que je pouvais lever du sol avec un collègue 400 livres. Puis soulever, c'est une civière, 200 livres, en tout cas, ça montait à 400 livres avec l'équipement. Et ce qui était spécial, c'est que les hommes, eux, pouvaient tenir à deux bras la charge parce que leur bassin est fait différemment du nôtre. Quand ils montent les escaliers, leur centre est ailleurs. Les femmes, notre bassin, plus il est large aussi, il va se déplacer à droite ou à gauche. Il faut prendre une main ou s'appuyer du côté contraire où le bassin va, en tout cas, pour garder le ballon. Fait que moi, j'étais obligée de libérer une main de la civière pour tenir la rampe d'escalier, par exemple. Mais je ne sais pas tout ça, mais il y a quelqu'un qui est là, un autre prof, assez jeune, qui est encore dans le domaine aujourd'hui, pas enseignant, mais qui est toujours paramédic à Montréal. Puis il me dit, tu sais, les femmes, vous ne bougez pas de la même façon. Il va falloir que tu continues de t'entraîner. Mais tu es capable. Puis ça, c'était remarquable parce que c'était pas ça, la mentalité. Puis j'étais avec plein d'hommes qui, eux, ils faisaient le travail ou pas. Il y en avait des plus faibles que moi aussi. Ils aimaient pas ça. Je savais pas qu'ils aimaient pas ça. Moi, j'étais concentrée sur ce que je faisais, mais il y avait des réactions autour. Et tout ça pour dire que Moses, j'ai soulevé des charges que peu de gens vont jamais soulever dans leur vie. Puis moi, je faisais ça sans même y penser. Puis ça m'a changé par rapport, je te dirais, à mes proches, à tous ceux que j'ai côtoyés dans ma vie. Je suis devenue une personne qui a beaucoup appris la vie par son corps. Puis par le fait que j'étais une femme, parce que dans ce milieu-là, moi, je n'avais pas regardé, mais quand je suis entrée, j'ai terminé le cours, là, je pense que j'avais 20-21 ans. Là, je ne suis pas tout à fait précise dans toutes les dates que je vous compte, mais quand j'ai commencé sur le marché du travail, l'entreprise qui m'a pris comme ambulancière, finalement, c'était la même qui m'avait laissé devenir bénévole.
Du début.
C'est ça. Et puis, il y avait 150, plus ou moins 150 employés, et on était 12 femmes. Puis, il y avait, je pense, c'est pas loin de 8 casernes. La mienne, c'était celle de Longueuil, la plus grosse, donc on était peut-être 6-7 femmes. Et les autres étaient répartis dans les 7 autres casernes. Alors, sans m'en rendre compte, je n'étais entourée que d'hommes. Et la caractéristique, à ce moment-là, dans le milieu, c'est que le cours, c'est une AEC pour chômeurs. Et où des gens qui, dans les années 70, n'avaient pas de scolarité et donc étaient embauchés pour conduire et pour soulever des civières. T'as pas peur du sang? Ça, c'était la phrase qu'on m'a répétée. Là, c'est, il disait, t'as pas peur du sang? Tu sais conduire, viens-t'en. Je t'embauche.
J'ai ouais. l'impression que ça a beaucoup changé dans les 30 dernières années. Il me semble, puis je suis choquée presque, ou en tout cas surprise là, de penser à quel point on a fait on a parcouru une grande distance dans la valorisation du métier d'ambulancier. Je sais que c'est quelque chose que tu tiens à cœur. Là.
Oui, c'est...
Je veux pas te distraire de ton histoire, mais...
Non, mais c'est là qu'on va. Parce que ma vie, elle s'est tournée complètement vers ce métier-là. Puis aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi ça a été aussi... ça a canalisé toutes mes énergies. Je ne peux pas tout expliquer. Je pense que je ne vais pas essayer de tout expliquer aussi. Moi, j'aime ça expliquer les choses. J'aime ça comprendre. Mais il y a des chemins, finalement, qui... On ne le sait pas qui vont nous arriver. Puis à ce moment-là, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Tant mieux, j'étais naïve dans le meilleur des sens qu'on peut lui donner. Je faisais quelque chose qui me plaisait, c'est tout. Mais j'ai découvert que les gens qui étaient là, eux, n'étaient pas tous là par choix. Tous aussi n'avaient pas la chance d'être formés. Ils n'avaient même pas accès à de l'information dans certaines situations, sur certaines choses. Puis, une des choses que finalement je sais aujourd'hui, c'est qu'on présume beaucoup, nous les humains, de ce qui existe vraiment. Puis là, je m'explique au sens où on a beaucoup de rêves, on a nos biais, hein, comment on veut voir la vie en rose. Une des questions qui m'est encore posée, c'est, ben vous envoyez ça de toutes les sortes, mais vous êtes formé, vous, pour gérer le stress. Ben, cordonnier mal chaussé, clairement. On vient là, dans les derniers mois, probablement, avec la pandémie, entre autres, de réaliser qu'il faut être formé, puis qu'on a maintenant des connaissances pour former les intervenants de santé à gérer toutes sortes de facteurs là, qui génèrent du stress. Mais certainement, les paramédics, avec un cours de 800 heures, c'est pas des cours sur l'auto-soin ou la compassion envers soi-même hein, qu'ils reçoivent. C'est pas ça.
Je vais t'amener un petit peu, faire un petit saut par en avant. Emmanuel, j'aimerais parler un peu de transition et des choix. Que tu as fait, puis on en a parlé beaucoup de choix que tu as fait peut-être un peu plus jeune. Mais donc, tu as été formée comme paramédic, formée, entre guillemets, si on peut dire, dans la formation qui était peut-être pas, là, qui était adéquate probablement à l'époque pour une vision assez limitée qu'on avait de ce que c'était un ambulancier. Je pense que ça a beaucoup changé, tu as fait partie de ce changement-là, mais tu as décidé de devenir enseignante, ou en fait, tu es devenue enseignante, je ne sais pas si c'est une décision, mais j'aimerais que tu me parles de cette transition-là. Puis je sais que tu as aussi une formation de sexologue, mais je ne sais pas à quel point on va être obligé d'aller vite là-dessus.
Je t'invite
à articuler cette transition-là.
Ce qui était clair pour moi, puisque j'avais tellement d'intérêts différents, hein, où j'avais. C'est ça, je voulais toucher un peu à tout. Ça reste ma. C'est mon identité, toucher à tout. J'aime ça. J'aime ça me renseigner, être un petit peu dans tous les domaines. Mais bon, aujourd'hui, je comprends que j'ai des limites. Je ne suis pas surhumaine. À ce moment-là, donc, j'avais quand même complété des études collégiales. J'avais un DEC en poche. Puis, c'était quand même pour sécuriser l'idée de pouvoir poursuivre à l'université puis faire mon cours comme sexologue. Ça, c'était près de moi. J'avais toujours pas d'idée d'être en couple, avoir les enfants, une maison. Je voulais pas non plus être présidente des États-Unis. Tu sais, il y avait pas un projet dans
heureusement.
Non, c'est
on
ça.
On serait pas là aujourd'hui si c'était
ça serait autrement. Bon, on serait sûrement encore amis. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Je le vois même. Mais certainement, le fait de travailler dans un métier de l'urgence, peu importe qu'on soit formé ou pas, on en vient que notre vie est particulièrement... Elle est tournée vers les gens dans la misère. Elle est tournée aussi vers un autre rythme de vie que celui du 9 à 5. C'est pas ça, c'est 24 heures sur 24. Les urgences, donc, les emplois qu'on nous offre, et surtout au début, c'est des emplois de nuit, de fin de semaine. Puis, je pense, moi, ça m'a pris... j'avais pas de réticence. Je voulais, mais j'ai été pris dans un tourbillon. Puis, je m'y plaisais. Fait que je suis embarquée dans ce métier-là. Puis, ça m'a un peu coupée du reste de la majorité des gens, je pense. J'ai tendance des fois à mettre des grandes étiquettes, à dire « Ah, oh, les gens, c'est ça, moi, je suis autre chose. » C'est un peu une vision un peu égocentrique. Des fois, je me surprends. Je me surprends là-dessus, ouais. Mais finalement, c'est ça, je me suis isolée, mais j'étais bien où j'étais. Le métier était difficile, mais pas le travail auprès des gens qui souffrent, pas auprès des gens qui sont justement dans des situations de grande pauvreté. On sait aujourd'hui que la pauvreté, même j'entendais ça il y a pas longtemps, c'est une cause de la maladie. On est là. Mais c'était le milieu ouvrier dans lequel j'étais. Ça, moi, je n'avais pas une personnalité pour ça. Je ne sacrais pas. J'ai commencé à sacrer à 21 ans, 20 ans. Il a fallu que j'apprenne. Les gens riaient là, quand je disais un petit mot. Là, puis même,
ah ben, torpinouche.
Oui, torpinouche, mais c'est ça. Mais je peux te dire, mon premier mot, ça a été hostie. Puis je m'en souviens. Je me souviens à peu près physiquement, j'étais où quand c'est arrivé. Parce que c'était tellement étrange, puis c'était sorti spontanément, mais c'est le milieu qui m'avait influencée. Puis là, a commencé aussi des difficultés avec des gens. J'ai subi encore l'intimidation. Aujourd'hui, c'est résolu tout ça, mais j'ai appris beaucoup sur qui se fait intimider. Donc, il y avait des raisons pourquoi je me sentais intimidée ou je l'étais vraiment. Mais il y avait des gens qui avaient des histoires criminelles autour de moi. Il y avait des bonnes personnes aussi. Mais on était un milieu où il y avait des gens, travailleurs défavorisés. Je connaissais pas ça. Fait que moi, je réalisais même pas. Des fois, moi, je parlais, tout le monde était comme moi, avait vécu des belles choses ou des moins belles choses, mais je ne souffrais pas à ce moment-là. J'avais un salaire. Puis même, je suis rentrée à un moment où il y avait de la job. Mais dans les années avant, c'était plus difficile d'avoir un emploi là, temps plein. Bien, j'ai rapidement compris que je ne resterais pas là éternellement. Mais je ne savais pas pourquoi exactement, mais je savais qu'il fallait que j'aie une porte de sortie. Puis, mon projet de devenir sexologue, c'était réaliste. Alors, je me suis inscrite et j'ai commencé mon bac en sexo un an, à peu près jour pour jour, après avoir débuté comme ambulancière. Là, nous, on se plaît à dire sur la route, OK? Sur l'ambulance, bien sûr. C'est des expressions de terrain. Fait que c'est devenu mon monde. J'étais étudiante le jour et paramédic la nuit. C'est ça.
Wow!
Ouais! Ça a laissé une trace dans mon corps, mais je ne savais pas. Dans la vingtaine, on ne sait pas le bien ou le mal, je pense toujours. Sûrement que certains le perçoivent, mais pas tous.
Puis, le bien et le mal qu'on se fait à soi-même.
Oui, c'est ça. Ce qu'on endure, mais parce qu'on a cette adrénaline-là, puis pas l'adrénaline de l'ambulance. C'est pas ça que je veux dire, mais l'adrénaline qui est présente, l'énergie vitale, on va passer au travers d'à peu près tout, mais ça laisse des traces dans le corps, la tête. Et je pense que je me suis pas juste... je me suis pas juste construite. Je me suis un petit peu usée. Mais j'ai passé au travers de ça. Je peux dire, là, sans aller loin là-dedans, les amours, ça a été difficile pour moi dans la vie. Jusqu'à aujourd'hui, là, il y a autre chose. Mais j'avais des histoires difficiles avec mes copains. Je ne choisissais pas des bons garçons pour moi. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas bons pour quelqu'un, mais des gens critiques, des gens perfectionnistes qui me disaient comment être. Toujours, par exemple, des gens très, tu sais, des hommes qui ont une tête malgré tout. On pouvait parler, des gens, des gars qui bougeaient, mais pas des gens qui voulaient s'investir avec moi. Puis moi, je pensais que c'était magique. S'investir avec quelqu'un, ça arrive de soi. Non. Non. Puis, comme je t'ai dit, j'avais pas de projet de couple ou de famille. C'était pas une image, une représentation. Fait que je me suis retrouvée être une fille engagée, qui avait des difficultés en amour, mais qui était, j'aimais le travail, j'aimais étudier, j'aimais bouger. Fait que j'avais quand même beaucoup plus de gens autour de moi. J'ai réussi à je sais pas, il y a quelque chose qui est arrivé, puis je suis devenue quelqu'un qui avait un groupe. Je me suis trouvé des gens peut-être un peu plus marginaux comme moi. Puis là, ben, je te dirais que ça a été une période de latence. La vingtaine jusqu'à 30 ans, j'ai fait ça. Travailler dans l'urgence, étudier, vivre toutes sortes de choses intéressantes aussi. J'ai fait quelques petits voyages. Puis, tu me demandais, tu sais, comment tu es devenue enseignante. Ben, Moses, dans mon domaine, une fille qui veut faire des choses, qui veut étudier, c'était pas nécessairement encouragé, mais je me suis rendue à m'inscrire à la maîtrise en administration de la santé parce qu'une prof de sexo m'avait dit « Hey, toi, tu es ambulancière, tu veux vraiment être sexologue? » Bon, des questions de corridor, là, elle dit, mais j'entends tes questions, puis il me semble que tu es quelqu'un qui aimerait faire de la recherche. Moses, qu'elle m'avait, ouais, elle a lu qui j'étais, c'était merveilleux. Mais je dis, mais oui, mais il n'y a pas d'avenir du côté de l'ambulance, là. T'sais, on n'a même pas un DEC. Parce qu'à ce moment-là, 2000, 2002, 2004, il n'y avait pas un DEC. Et aujourd'hui, on a un DEC au Québec. Donc, 3 années de formation, c'est beaucoup plus solide. Il y a encore des enjeux. Mais à ce moment-là, moi, il n'y a pas d'avenir. Elle dit, ben oui. Elle dit, moi, je peux te montrer le chemin. Elle dit, moi, mon conjoint est médecin pour Urgence Santé, hein, qui est le service ambulancier là, qui dessert Montréal et Laval. Là, je fais, ben voyons. Fait que, elle me le présente. Je discute avec lui de mes idées qui sortaient dans les cours. Puis moi, ce qui arrivait, c'est que cette prof-là, elle enseignait les comportements en santé. Qu'est-ce qui va modifier que quelqu'un va agir d'une certaine façon pour sa santé ou pas? Puis ça s'applique aux intervenants. Puis je me posais plein de questions sur pourquoi les ambulanciers, finalement, puis ça, je ne l'ai pas dit, pourquoi ils n'étaient pas toujours fins avec les patients? Pourquoi je voyais des fois des abus? Puis moi, je n'étais pas comme ça. J'étais patiente à n'en plus me respecter, par exemple. Puis le concours de circonstances a fait que je me suis inscrite à la maîtrise et en même temps, il y a eu un conflit avec mon employeur. J'avais 28 ans. J'avais demandé un congé sans solde, c'était super, mais la personne qui me l'avait autorisé a quitté. Puis la personne qui a remplacé a décidé de me rappeler au travail parce que, bon, il y a toujours dans le domaine de la santé une pénurie. Puis j'ai pas compris que je devais la rappeler. Je pensais que j'étais en congé sans solde puis qu'on devait pas me déranger jusqu'à temps que ça soit fini. Mais il y a un article dans la loi, notre code au Québec, qui dit, dans le fond, que tu dois loyauté à ton employeur. Ben, j'ai appris que je n'avais pas été loyale à mon employeur en ne le rappelant pas ou en étant difficile à rejoindre, ouais. Puis, il y avait des gens, malheureusement, dans mon milieu qui avaient intérêt à ce que je quitte parce que j'étais la première employée qui passait à la maîtrise et même qui avait un bac. Aucun de mes gestionnaires avait plus qu'un DEC. S'ils avaient un DEC, c'était un enjeu. Et puis, il y avait toutes sortes de gens étranges. Et aujourd'hui, je peux vous dire, parce que l'histoire nous a dit qu'ils ont perdu leurs emplois dans ce domaine-là. C'est vraiment... J'ai vécu quelque chose de très difficile à ce moment-là. On m'a mis à la porte. Je ne suis pas supposée de vous le dire. Ça n'a plus un grand impact parce que ces gens-là ne sont plus en place. Il y a plus... C'est toute une relève. Mais j'avais une entente pour remettre ma démission. Et... avoir une lettre de référence plutôt que finalement d'aller en arbitrage où je l'ai appris à la dure, dans le fond, c'est que si je m'étais rendue à l'arbitrage dans le contexte où le conflit disait, bon, c'est un conflit où j'avais manqué de loyauté à l'employeur, on aurait sali ma réputation. Mais j'avais 28-30 ans. Puis là, l'avocate qui avait 35 ans, celle qui a pris ma cause, qui l'a eu 48 heures avant que ça passe, après 2 ans d'attente. Elle m'a dit, tu sais, est-ce que tu veux faire autre chose dans la vie? Je dis, bien, je suis enseignante aussi dans le domaine. Mais elle a dit, pense-y, parce que c'est public, les résultats, les arbitrages, j'ai oublié le mot, là, mais ce qui est écrit par après. Elle a dit, ils vont dire des choses qui ne sont pas vraies sur toi. Mais elle a dit, si tu veux, on a tout ce qu'il faut pour y aller. J'aurais gagné, selon ce qui existait comme, dans le fond, un précédent. Ben, j'ai décidé que je ne voulais pas passer au travers de ça. C'est la seule journée dans ma vie où j'ai failli m'évanouir de stress, de je ne peux même pas décrire quoi, mais j'étais tellement déçue parce que jamais, jamais, je n'avais pas voulu rentrer au travail. J'étais convaincue qu'on ne pouvait pas me rejoindre. C'était tellement important la maîtrise pour moi de la finir. Dans ce domaine-là, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que je suis une enseignante, oui. Je suis une des rares femmes qui a enseigné à partir de, dans le fond, de 2005, dans ce domaine-là, avant que le DEC existe. Puis j'étais la première femme à terminer un diplôme en sciences de deuxième cycle. Puis ça m'a même amenée... Je serais pas loin là-dedans, mais à un diplôme de troisième cycle que j'ai pas terminé. Mais j'étais, à ce moment-là, on était 2 femmes au Canada sur 30 000. Ça sera jamais écrit nulle part, ça. Moi, je l'ai su. Des gens me l'ont dit. J'ai fait quelque chose que personne n'a fait. Là, aujourd'hui, je comprends pourquoi je suis fatiguée. Parce que probablement que je me suis battue, que j'ai fait des erreurs que personne n'avait fait avant. Je n'avais pas de modèle. Mais je suis contente. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres gens. Hein, quand on dit certains se sont battus, ont fait le chemin pour d'autres, ben je pense que oui.
C'est, en fait, c'est un travail de pionnière, là. Puis j'ai l'impression que... Bon, moi, je suis sociologue de formation, là, mais je vois le télescopage entre... la transformation du métier d'ambulancier, ouais. Je veux dire ambulancier parce qu'il n'y en a pas beaucoup des ambulancières au Québec, du métier ambulancier au Québec. Ouais. Puis je le vois dans ta vie, tu sais, où t'étais cet élément-là qui dérangeait. Là. C'est l'époque s'est reflétée dans ton existence.
Oui, dans toutes sortes de... Puis, tu sais, il y a tellement d'autres détails qui mène à ce constat-là. Puis, tu sais, on voit des histoires de pionniers, puis on se dit, ah, c'est des grandes personnes, ou ah, j'aimerais ça être cette personne-là, mais je souhaite à personne de sentir comment je me suis sentie. Parce que finalement, je bûchais sans le savoir tout le temps. Puis aujourd'hui, je sais que j'ai quelques... Je te dirais que j'ai un petit traumatisme crânien de m'être cogné la tête dans des portes fermées.
Mais c'était ça que je pensais. Si tu tapes la tête assez longtemps sur un mur, éventuellement, le mur va peut-être craquer un peu, mais bon, il y a un coût personnel. Tu sais,
à ça, je ne le calculais pas. Je n'avais pas appris ça, moi. Mais aujourd'hui, tu vois, je suis enseignante hein, depuis donc ce moment-là. Je n'ai qu'enseigné au collège parce que finalement, il y a eu toutes sortes une crise d'identité, là. Tu te fais mettre à la porte, c'est pas la même chose que remettre une démission. Puis, c'est un métier que j'aimais. C'était pas un choix, c'était un non-choix.
Okay. On t'a pris quelque chose.
Ouais. Puis, on m'a pris aussi ma... je suis une personne qui n'est pas dans la violence. Et j'ai été violentée. Puis, quelques années même après ça, il y a un des gestionnaires, qui n'était pas celui qui avait généré le renvoi, mais qui l'avait appuyé, s'est excusé à moi par le biais d'une autre personne, puis par la suite en personne. Donc, on m'avait vraiment fait violence. Puis là, j'ai compris c'était quoi un milieu, là. Puis c'est pas contre les hommes, moi j'aime tout le monde. Puis je veux dire, je savais même pas c'était quoi le féminisme là, encore à ce moment-là. Aujourd'hui, je le sais parce que j'ai eu des féministes qui m'ont guidée au doctorat, là. Puis Pour moi, c'était d'emblée qu'on était égaux. Mais non, il y a de la jalousie. Il y a aussi le fait qu'on n'est pas égal. Il y a des gens qui vont toujours considérer qu'un autre est plus petit qu'eux ou a droit à moins qu'eux. Ben moi, j'avais pas ça. Fait que je me protégeais pas. Puis, tant mieux en même temps, parce que c'est vrai, j'ai fait des belles choses. Fait que si vous tombez sur une maîtrise en français qui parle des paramédics au Québec, ben moi, juste, ça a l'air que depuis, ça fait 10 ans là, que ça a été déposé, il y a à peu près aucun autre texte en français sur, comment dire, qui provient d'un paramédic ou d'une paramédic. Il y a des gens qui sont intéressés. Puis là, on a un DEC depuis 2006. Puis moi, ça l'a fait. Quand je parle de tout ça, les gens, il y en a qui me disent « Oh, mais t'es arrogante, t'arrêtes pas de parler de diplôme, d'école. Puis... » Mais non, je parle de savoir. Je parle d'accès à développer notre intelligence. D'être des gens, des humains qui vont aller au bout de leur capacité dans des contextes où même, je veux dire, celui à côté de toi pouvait le faire, mais toi, pour des raisons obscures, souvent les autres travailleurs qui, eux, ont des diplômes, toi, tu n'as pas le droit d'apprendre ou tu n'es pas capable d'apprendre. Des préjugés, des présupposés, toutes sortes de situations, ça arrive dans d'autres milieux. Mais là, c'était des gens qui sauvent la vie de d'autres, mais qui ne pouvaient pas apprendre. Puis moi, je repoussais ces barrières-là parce que mon bagage d'avant, mes capacités, mais mon intérêt pour apprendre. Là, aujourd'hui, je suis contente parce que les jeunes, les plus vieux aussi, ont accès à plus de formations. Il y a d'autres gens comme moi qui veulent repousser. Puis, je suis contente aussi, en général, la santé, les connaissances sur sa santé se démocratisent. La pandémie au Québec, ça a vraiment donné le coup de fouet qui nous manque. Du côté anglophone au Canada, puis même du côté anglophone au Québec, il y a autre chose. Ça a évolué autrement. J'ai visité moi, puis c'est là que c'était super, dans la trentaine, là, avec la maîtrise. Puis le fait que je te donne seulement enseignante, Moses, c'est quand même gros. J'ai voyagé, Moses. Je suis restée qui je suis. Je suis allée présenter ma maîtrise en Suède. Puis, dans une petite conférence, là, toute... simple et, sans flafla. J'ai présenté des travaux d'étudiante de maîtrise, mais à des collègues ambulanciers d'Europe. Et puis, ils ont beaucoup aimé. Et j'ai été réinvitée en Angleterre. J'ai pas fait des millions avec ça, là. Des fois, on m'offrait l'avion, mais ça s'arrêtait là. Puis, c'était d'autres gens qui, eux aussi, là, vivaient... ils investissaient leur propre argent dans ces projets-là. Mais... Je vais revoir dans 2 semaines une ambulancière que j'ai rencontrée, une paramédic d'Angleterre. Elle va être à Ottawa dans 2 semaines. Elle a 10 ans de moins que moi. Puis elle est au doctorat comme paramédic en Angleterre. Ils ont créé un programme. Puis elle a influencé plein de choses là-bas. Puis elle s'en vient, puis elle dit « Je veux te voir, je veux te parler de ce que je vis. » Puis on est devenus des amis parce qu'on n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup qui ont fait ça. Mais où je vais aller, c'est que ça a été tellement des récompenses par rapport aux énergies que j'ai mis malgré moi, sans le savoir dans ça. Mon non-choix, ma naïveté m'a amenée à vivre toutes sortes de grandes émotions. Là, je crois que j'ai envie d'en vivre moins. J'ai envie de vivre pas du 9 à 5, je serai jamais capable. Fait que j'ai été enseignante, ça fait 17 ans. Je ne suis pas douée pour gérer une classe. C'est ça? Non. C'est pas la même chose que gérer un patient mourant. Il y en a qui vont dire, ben voyons. Non, c'est plus stressant. C'est plus stressant. Mon patient mourant, je vais être avec lui 8 minutes. L'étudiant, je vais le côtoyer pendant 3 ans minimalement. C'est une relation à long terme. Il y a quelque chose là qui est... C'est plus grand que ce que moi, je comprends.
Puis il y a tellement d'autres facteurs aussi au-delà de toi. Tu sais, pour quelqu'un qui se sent responsable, je pense qu'enseigner, c'est tellement difficile parce que, contrairement au patient qui est avec toi, mais seulement avec toi, tu sais, pendant 8 minutes, puis c'est sûr qu'il y a d'autres facteurs dans le corps du patient, mais tu sais, si le patient ne survit pas...
C'est pas moi.
C'est pas c'est toi, pas mais moi. En même temps, tu sais, s'il survit, c'est toi, tu sais. Tu as vraiment eu possiblement un impact fort, tu sais. Mais dans une situation où, avec des étudiants, il y a tellement d'autres choses. Tu es une toute petite partie de leur vie comme enseignant. Mais en même temps, c'est un grand sens des responsabilités.
Mais c'est ça. Fait que moi, je suis encore comme une adolescente à 45 ans. Puis je découvre que... c'est ça, j'ai pas cette influence-là que je crois avoir sur les autres. je veux dire, ils sont responsables, mais j'absorbe les émotions, puis je me rends compte que j'aime ça mener mes projets, mais finalement, je vais dire autrement, je disais, hein, plus jeune, c'était difficile d'avoir des amitiés. Mais en fait, j'ai appris sur moi dans la vie, au travers de tous mes projets de fou, là, puis de justement ce renvoi-là d'une compagnie, de la compagnie que j'ai, en Blossard où j'ai travaillé, j'ai appris que probablement j'avais un TDAH, OK, dans la définition qu'on en donne à 30 ans, durant la maîtrise, après justement les événements l'entourant, l'arbitrage qui n'a pas eu lieu. J'avais des difficultés d'enseignement. Moi, je n'avais pas de difficultés comme paramédic avec les patients, mais j'arrivais souvent en retard. Puis, pas en retard sur mon chef, je punchais pas à l'heure. Mais non, mais j'étais là depuis une heure, mais j'oubliais de puncher. Fait que, tout le temps, des petites affaires qui m'arrivaient, mais pour dire que j'ai appris finalement que probablement cette condition m'amène à être aussi très émotive et à absorber beaucoup. Je ne mets pas mes frontières. Hein? Puis là, je pense que les jeunes aujourd'hui apprennent autre chose. Je pense que des gens aussi de ma génération avaient appris autre chose. Je ne savais pas, moi, c'était quoi mettre une frontière avec l'autre. Puis là, ça a expliqué tellement de choses. Que ce point de vue-là, moi, m'a aidée quand j'ai compris. Je me suis attardée à dire c'est quoi ça, une frontière? Pourquoi justement j'absorbe les autres? Je ressens beaucoup. Ben, il y a peut-être un côté neurologique, il y a un côté de mon éducation, mais peu importe mes passions, peu importe les défis de la vie, le problème, c'est l'énergie physique, vitale. C'est quand tu es comme ça, tu te fatigues plus. Ça, moi, je ne croyais pas ça. Hein, j'ai des épaules fortes, des cuisses qui poussent du poids. J'impressionne encore les étudiants quand je fais juste le petit une petite mesure là, de combien fort on peut pousser. Là. je pense que je suis dans le 300 livres que je peux pousser avec les gens, mais aujourd'hui, je peux juste le faire une fois. Je ne peux pas faire ça 8 fois de suite comme peut-être ça le demanderait dans le travail des fois. Mais ça me prend des jours à me remettre. Puis ça, je comprends. C'est nouveau. J'ai appris que j'ai une limite, que je dois mettre des frontières pour moi, que les émotions, ça nous demande l'énergie. Et quand tu as des grandes émotions, ben tu as aussi besoin de refaire. Là, moi, c'est toutes les... Je suis dans le monde médical, la santé, la science. C'est biologique. Puis ça prend un temps. Refaire nos neurotransmetteurs, ça prend aussi... de bien s'alimenter, de bouger. Mais quand tu vis à 100 000 à l'heure, que tu es toujours en train de justement de créer des choses pour la première fois ou de donner tes idées à voix haute, je m'exprimais devant mes collègues et on me dit « Ah, toi, Emmanuel, on sait bien. On sait bien quoi? Ah, tu as toujours une vision de quelque chose qui est plus complexe. Plus... Mais pas toi? Ben non, je me pose pas de questions. Ben non, c'est correct comme c'est. Mais je peux pas être comme ça. » Puis là, on m'a dit, va prendre un break. T'sais? Mon corps m'a dit, t'es plus capable. Ma tête m'a dit finalement, ouais, là, ça marche plus. Puis le monde autour de moi dit, profite-en, prends un break, arrête de penser. Mais voyons! Comment on fait ça? Fait que c'est là que je suis rendue, moi. Bien, il y a quelque chose qui est arrivé. Là, tu me poses même pas de questions, mais tu sais, moi, c'est ça. Ton sujet est tellement palpitant. Ben, moi, c'est les changements hormonaux de la quarantaine qui viennent de m'arrêter. Il y a une partie, ouais, il y a une partie de ce que je vis finalement qui est hormonale. Puis c'est. Moses, moi, je savais pas que ça existait, la ménopause. Parce que je pense que c'est là-dessus que j'aurais travaillé pour pas que ça existe. Il y a vraiment des changements dans le corps. Les femmes, ben, nous, c'est ça en particulier. Quand tes hormones sont plus au même niveau, quand tu commences à produire moins de progestérone, d'ostrogène, ben, ça fout le bordel. Puis, ce besoin-là qu'on a de se reposer est encore plus important. Si on veut maintenir une vie active, je suis pas malade, mais mes hormones m'empêchent de faire plusieurs choses. Mais en parallèle, je suis malade. J'ai un asthme qui a commencé quand j'ai dit à la puberté. J'ai, dans ma vie, pris mes prescriptions telles que prescrites. J'ai suivi à la lettre ce que les médecins ont dit, ce qui n'est pas fréquent. Les patients, c'est difficile pour un humain de suivre une prescription là, des soins, des médicaments pendant des années. Puis moi, Moses, je les prenais. Mais là est arrivé les hormones, la fatigue de ma vie professionnelle. Bon, ma vie personnelle, j'ai été célibataire dans les dernières années parce que pour faire tout ce que je t'ai dit, avec des enfants, il faut vraiment être exceptionnel. J'ai des gens exceptionnels autour de moi. Mais moi, j'avais pas la capacité de gérer une famille, un chum, des études. Puis j'étais pionnière, ça a de l'air, dans mon domaine. Mais là, arrive un moment où tout ça s'est un peu posé. Puis mon corps me dit, ben, ça change. T'auras plus autant d'énergie qu'avant. Puis si t'en as, ça sera pas quand tu vas décider que tu en as. Il y a une journée, tu vas en avoir, l'autre journée, tu n'auras pas. Puis je me suis retrouvée dans cette phase-là en même temps que la COVID. Ça, je savais pas. Fait que depuis 2 ans, j'ai eu un diagnostic d'hypothyroïdie. Mon asthme que j'avais s'est transformé en un diagnostic d'asthme sévère, ce qui n'est pas beaucoup de gens qui ont ça. C'est, si je ne traitais pas cet asthme-là, probablement que je serais toujours à l'hôpital avec une incapacité de respirer parce que les poumons sont inflammés. Mais là, je prends des médicaments. Cette année, la facture, qui est quand même payée par mes assurances collectives, c'est 35 000 $.
Wow!
Ouais, c'est presque la moitié de mon revenu. Mais bon, j'ai pas à le défrayer. Je réalise donc ça. J'ai un TDAH qui affecte certaines choses. C'est pas une maladie, mais ça engendre toutes sortes de réalités qui souvent... viennent être bousculés par les demandes du milieu de travail, les demandes de la famille, les demandes du quotidien dans notre société. J'essaie de les rencontrer. J'aime ça, c'est arriver à faire ce qu'il faut faire. Ben là, c'est trop. Fait que il y a un an, après un an et demi de COVID, où nous, on travaillait toujours à l'école, je faisais du 60 heures semaine. On avait la jaquette, les lunettes, les gants. Dans les salles de classe. 14 étudiants, des étudiants qui en ont, comment dire, ils se sont surpassés dans les contextes où ils ont appris. Mais c'était dur pour tout le monde. Puis on ne fait pas pitié, on n'était pas ceux qui... Tu sais, on est nourris, les étudiants qui étaient là, on leur a donné du temps d'extra, on a fait attention à eux. Mais c'est dur. C'est dur, moderne, c'est une façon moderne de souffrir. Je trouve ça terrible d'avoir à dire ça, mais je travaillais des 8 heures de suite. Je devais crier au travers d'un masque avec un asthme sévère. Je ne le savais pas que ça demandait autant d'énergie, mais j'essayais de le faire. C'est mon travail, je le fais. Puis j'ai plus été capable de le faire. Fait qu'il y a une journée, en janvier dernier, où là j'ai fait, je suis malade, j'ai toutes sortes de trucs. Là j'ai commencé, je pense, à être pas une dépression, mais c'était une déprime. Je commençais à réaliser, dans le fond, que j'allais peut-être plus être jamais autant en santé que dans le passé. Si je changeais pas quelque chose. Puis là, c'est devenu compliqué parce que je savais pas quoi changer. Puis il fallait rouler quand même 60 heures semaine, là. j'avais pas le temps de penser à rien, puis changer mes habitudes, puis bon, tu sais, tout ce qu'il faudrait faire. Ben, les mois sont accumulés, puis à l'automne, je me suis assise une journée dans un cours que je donnais. J'avais plus envie de le donner. Là, j'ai dit, c'est pas moi. C'était tellement étrange, je pouvais pas tenir debout. J'avais pas de voix, ça sortait plus, j'avais plus de mémoire. Je ne savais pas quoi dire aux étudiants. J'avais oublié, puis c'est un cours que je donne depuis 10 ans. J'ai dit à ma technicienne de laboratoire, qui était une perle, j'ai dit, aujourd'hui, je ne leur enseignerai rien de nouveau. Puis je ne suis pas sûre que je vais revenir. Je ne suis pas revenue. Je suis pas revenue, je n'ai pas décidé ce que je vais faire pour la suite. Mais certainement, je dois apprendre à vivre avec une maladie invalidante comme perte d'une jambe, une dystrophie musculaire, mais avec une vraie maladie qui m'empêche de bien respirer, de bien dormir, avec d'autres problèmes, des réalités humaines, une thyroïde qui ne fonctionne plus. Aïe, aïe! J'ai jamais voulu être un super-héros, mais j'ai fait un métier qu'on dit, hein, souvent, on dit, ah, c'est des super-héros, les ambulanciers. Mais on est juste humain, Moses. J'ai pas appris à être un humain encore, je pense.
Il est pas trop tard, il est pas trop tard, Emmanuel.
Ben c'est ça, c'est là qu'on
est. Je sais que t'aimes ça apprendre.
Oui. Fait que la suite, c'est là. Ben oui, il y a le temps qui passe et tout.
Ben oui, le temps qui passe, mais le grand temps de la vie. On a à peu près 5-6 minutes qui nous restent et j'aimerais t'amener... puis tu viens de le dire, là, tu sais pas nécessairement c'est quoi la suite, mais j'aimerais t'amener à parler de l'avenir à grands traits, de l'avenir presque lointain. Pas nécessairement de l'avenir, là, qu'est-ce que tu vas faire, tu sais, dans 6 mois. Ouais. Je suis sûre que tu te poses ces questions-là aussi, mais pensons à l'avenir, là, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je vais te poser juste une question. Dans ces années-là, devant nous. Puis, ben, franchement, on est en milieu de vie. Hein?
Je veux dire, ben, clairement,
l'espérance de vie est en, mettons, 80 ans. On est au milieu de la quarantaine. Là, on a quand même à peu près autant d'années devant nous, statistiquement parlant, que ce qu'on a derrière en termes de conscience. Donc, j'aimerais te demander, quel héritage voudrais-tu léguer, voudrais-tu construire au cours de ces décennies à venir, qu'est-ce qui serait significatif pour toi?
C'est vraiment un temps où je pense à ça. Il y a des choses qui s'en viennent plus claires pour moi. J'ai un amoureux depuis 2 ans. C'est la plus belle chose qui est arrivée en parallèle de tout ça. Un drôle de moment de vie, mais ce n'est pas... J'aurais aimé avoir des enfants, mais comme je te dis, j'ai jamais eu le projet. J'adore les enfants. Puis là, quand je rencontre quelqu'un, ben, je suis dans cette période-là où on ne tombe plus enceinte. Ce sont des petits miracles si ça arrive dans la quarantaine. Sinon, c'est en clinique de fertilité. Fait que les enfants, je ne serais pas capable. C'est pas ça, hein, quand on dit un héritage. Professionnellement, j'ai réfléchi, je me dis, ben, j'ai déjà laissé un morceau. Parce qu'il y a des choses qui restent de ces fameuses portes que j'ai, sans savoir, ouvertes. Et puis, là, je me dis, par exemple, j'ai tellement appris, j'ai tellement de connaissances sur ce métier-là comme femme. J'ai fait 3 métiers quasiment dans ma vie, là, déjà. J'aimerais ça écrire un livre, un manuel, laisser de la connaissance qui n'existait pas, là. Il y a tellement manqué aux gens dans cette sphère-là, là, du travail, qui est un métier assez étrange, parce que c'est pas partout qu'il y a des ambulanciers sur la planète. Tu prends des sous pour avoir des ambulances, puis c'est compliqué, mais j'aimerais écrire. De l'autre côté, j'ai un conjoint merveilleux. Ben, j'aimerais vivre pour qu'on puisse en profiter. Fait que je vais devoir apprendre à être en santé. Mais en vieillissant. Ça, c'est... fait que je vais devoir... il y a quelque chose là que je veux travailler. Puis, j'ai décidé, comme je te disais, d'un peu d'apprendre à vivre plus ralentir. Parce que c'est cliché, mais c'est important. Parce que le corps, si on veut qu'il dure, il faut savoir. Dans le fond, il y a encore des choses à maîtriser, là. Ben, ça, je vais me lancer ce défi-là. Puis pour ça, ben, il faut que je mette mes frontières plus claires. Qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je donne pas. Et ce que je vais donner, c'est peut-être moins mon temps. C'est peut-être moins... Peut-être l'enseignement, ça sera juste un petit passage, là. Je vais peut-être revenir quelques temps, mais requitter. Je vais plutôt, c'est ça, écrire la connaissance. Peut-être être une bonne ma tante. Mes neveux, mes nièces, j'ai un beau lien avec eux. Ils me reviennent... Ça revient important là, pour moi de transmettre peut-être un petit peu plus proche de la famille parce que j'ai pas parlé de famille. Hein. Fait que de voir qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce que je pourrais continuer là, de développer que j'ai pas développé. Ouais. Mais je vais apprendre parce que c'est comment je suis. Puis je suis une personne, je pense que je sais pas si je vais vivre jusqu'à 80 ans parce qu'il y a un petit bagage là, que je traîne, puis je suis contente que la médecine moderne ait des médicaments pour m'aider à fonctionner tous les jours. Mais j'ai certainement pas peur de vieillir. Je sais pas comment je vais réussir. C'est ça. Comment on réussit ça dans la vie? Puis je te fais un clin d'œil, je te termine avec un clin d'œil. Ma grand-mère a 97 ans. Bon, elle vit toujours, c'est pas simple. Bon, elle est pas très en forme, mais il y a de la génétique dans ma famille pour ça. Fait que ça sera un beau défi.
Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Pour réagir à ce 7e épisode de La Quarantaine, visitez-moi sur Instagram à laquarantaine.balado. Pour me suggérer le nom d'une personne à interviewer, visitez le site laquarantainebalado.com. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre conversation.